Alphonse Karr, Voyage dans Paris, en 1865. Il y a un aspect auquel j'ai besoin de m'accoutumer de nouveau chaque fois que je reviens à Paris. C'est l'aspect des maisons. Dans cette belle et riche campagne de Normandie que j'habite pendant la plus grande partie de l'année, la plupart des maisons n'ont qu'un étage. On monte deux ou trois marches de pierre et l'on est arrivé. Au-dessus des chambres est un grenier, le toit est un chaume couvert de mousse du côté du nord et surmonté d'iris au feuillage aigu. La maison du maître, quelquefois, a un second étage, elle est couverte en tuiles, peut-être même en ardoise, mais il l'habite en entier avec sa famille. Si quelqu'un veut avoir une maison, il la bâtit plus loin. Personne ne s'avise de bâtir sa maison sur la maison d'un autre. Et dans les villes, et surtout à Paris, les logis sont superposés, et les gens logés comme on serre des vêtements dans les différents tiroirs d'une commode. À cause de l'habitude, cela ne paraît pas singulier aux habitants des villes. Mais si je vous disais qu'en Bretagne, par exemple, il y a dans les campagnes des lits à deux étages, je suis sûr que vous trouveriez extraordinaire cet usage qui n'est qu'un faible diminutif de la forme des maisons à laquelle vous ne faites pas attention. Chaque maison à Paris est une montagne qui est habitée depuis la vallée jusqu'à son sommet. Vous y pouvez remarquer facilement les différences de mœurs qui ont de tout temps été signifiées entre les habitants des basses terres et l'habitant de la montagne. En Écosse, dans les Alpes et dans les Pyrénées, l'habitant de la vallée se livre au commerce. Il est intéressé, économe, un peu avare, un peu voleur, mais jamais il n'emploiera la force pour s'approprier le bien d'autrui. Il vend à faux pois de faux café mêlé de faux chicorée, car on est arrivé à falsifier la falsification. Il mélange ses denrées de quelques substances vénéneuses, il est vrai, mais de peu de valeur, et qui prennent celle des denrées auxquelles on les mêle. Et comme le poison lui-même est vendu à faux pois, ce n'est pas très dangereux. Puis tout doucement, il devient la justice sous le nom de juré et le gouvernement sous le nom d'électeur. Et le montagnard, l'habitant du sommet de la maison, est pauvre, mais jeune, ardent, impétueux. Il est franc et loyal, amoureux de la liberté, peintre, musicien ou poète. Les femmes sont jeunes, jolies, gaies et insoucieuses, comme les moineaux, qui seuls logent plus haut qu'elles. Ingénieux moineaux, comme ils ont appris à connaître l'homme, comme ils savent bien que les pauvres sont seuls généreux. Ce n'est pas aux habitants de la plaine, aux boutiquiers d'en bas, qu'ils iraient demander à dîner. Ils craindraient eux-mêmes le dîner. Tandis que l'hospitalité des montagnards est célèbre. Les gens qui n'ont pas assez de pain sont les seuls qui partagent avec ceux qui n'en ont pas du tout. L'habitant de la montagne, outre sa jeunesse, sa santé, sa gaieté, possède encore un luxe. Il a de l'air à discrétion. On sait que la ration d'un homme est de 786 litres d'air par heure. Et l'habitant de la plaine vit à moins. Du reste, il n'y tient pas autrement. Cela ne se vend pas. Vous n'êtes pas sans avoir lu de longs récits de voyageurs dans les Alpes, dans les Pyrénées et ailleurs. Comme ils sont fiers d'avoir gravi telle ou telle montagne, tel ou tel pic. Comme il vous en donne juste la mesure par mètre, centimètre et millimètre. Pauvres gens, l'habitant d'une mansarde à Paris n'est pas si fier. Et pourtant, qu'êtes-vous auprès de lui? En supposant qu'il rentre chez lui trois fois par jour pour déjeuner, pour dîner, pour dormir, au bout de 50 ans, il aura gravi 3 275 000 pieds. Il aura fait un peu moins de 600 lieues dans son escalier. Et pour ne laisser aucune infériorité aux montagnards des maisons de Paris, on a voulu qu'ils ne courussent pas moins de danger que les autres habitants des montagnes. On monte de la plaine à la cime par un chemin roide et tournant, qui donnait déjà des vertiges avant qu'on eût coupé, conçu l'idée ingénieuse de le rendre glissant au moyen de la cire. Il faut dire que l'usage absurde de cirer les escaliers et les appartements tient à une sotte et inépuisable et impuissante vanité dont les exemples ne sont pas rares. Les premiers qui ont imaginé de cirer les appartements et les escaliers ont ensuite couvert les uns et les autres de tapis, et les autres ont trouvé que cela avait l'air riche. Alors ils ont ciré, frotté leurs chambres, leurs escaliers, mais ils sont abstenus des tapis qui coûtent fort cher. Cette ridicule habitude coûte par an la vie à 3 ou 4 personnes à Paris, cause un nombre infini de fractures et de luxations, sans parler des chutes qui ne sont que douloureuses. C'est le même sentiment qui a fait depuis quelques années adopter aux femmes des jupes démesurément longues. Cette forme de vêtement, une sorte de grâce majestueuse qu'il a fait adopter par les femmes qui ont des voitures. Mais celles qui vont à pied ou qui pisaient en omnibus se sont empressées de l'adopter. Elles ramassent la boue des rues avec le bord de leur robe et en déposent une partie sur leur bas. Ah, c'est en vérité un charmant pays aujourd'hui que ce Paris dans lequel j'entreprends un voyage. Depuis longtemps et partout, il y a des choses qui se vendent, même des choses qui perdent tout leur prix quand elles sont vendues. Mais les idées libérales ont singulièrement pris le dessus. On a renversé une foule d'abus qui ont longtemps régné sur la société. Autrefois, il y avait une aristocratie dans laquelle ne pouvaient entrer que quelques personnes privilégiées. Il fallait, pour être du monde et du beau monde, il fallait que le hasard vous fît sortir d'une bonne famille et vous donnât un beau nom. À la rigueur, vous étiez encore un homme comme il faut, quoique déjà dans un rang inférieur, si vous aviez fait quelques belles actions à la guerre, si vous étiez un grand poète, un grand musicien, ou un grand penseur, ou un grand peintre. Ces odieux privilèges ont disparu. Et c'est bien plus commode. Je viens d'envoyer mon domestique m'acheter pour 2 francs 50 centimes une paire de gants d'une certaine nuance de jaune qui suffit pour me ranger parmi les gens de bonne société. Je sais qu'on a des gants à peu près pareils pour 29 sous, mais les gens délicats ne s'y laissent pas prendre. Avec des gants à 29 sous, on risquait d'être autrefois la noblesse trop nouvelle, la noblesse dont les titres n'étaient pas bien établis. Une mercière peut faire maintenant tout ce que faisaient alors Dozier et les autres généalogistes. L'aristocratie admet beaucoup plus de monde depuis qu'elle se compose des gens qui possèdent 50 sous. Pour 50 sous, on s'attire tout autant de considération, d'égards et même d'envie et de haine qu'on pouvait exciter l'ancienne aristocratie. Par le même progrès, on a bien aplani les chemins qui mènent aux honneurs, aux dignités et au pouvoir. Autrefois, il fallait apprendre les lois, la politique, etc. Il fallait conquérir une grande réputation d'intégrité ou de capacité. Cela excluait assez souvent les niais, les imbéciles, les sots, les ignorants, les fripons, en un mot, une notable partie des habitants du pays. Mais cet abus odieux avait duré trop longtemps. Un pauvre diable qui naissait bête avec beaucoup de travail, d'audace, d'opiniâtreté, arrivait à devenir un sot, et voilà tout. Mais aujourd'hui, qu'il suffit pour avoir part au gouvernement de posséder un certain nombre de fenêtres, ceux qui n'en ont pas de naissance et qui ont de l'intelligence trouvent bien moyen d'en épouser quelques-unes, ou ils en gagnent, ou ils en volent. Cela est à la portée de tout le monde. Ah, j'ai mes gants jaunes. Que me faut-il encore pour sortir? Une canne. Qu'est-ce qu'une canne? C'est un bâton. Ce doit être un bâton noueux, très fort, sur lequel on peut s'appuyer lorsqu'on est fatigué, avec lequel on peut se défendre en cas de mauvaise rencontre. Nullement! La police ne s'est pas encore expliquée sur les bâtons. Mais en général, elle ne veut pas que les honnêtes gens sont armés. Toute canne à dard, tout poignard, tout couteau, tout pistolet expose celui qui le porte à payer une amende de 15 francs. Le bourgeois honnête qui ne veut pas avoir de démêlés avec la justice se donne bien garde d'en porter. Le voleur, l'assassin, qui dans l'exercice de son état s'expose à l'échafaud, se soucie peu d'encourir 15 francs d'amende en cas de la mort. C'est fort commode pour messieurs les voleurs et messieurs les assassins. Si d'une part la police ne veut pas que les bourgeois soient armés, d'autre part la mode veut qu'on porte de petites badines minces, légères, fragiles, qui se brisent si on les laisse tomber. La canne est un ornement, comme une épingle à la chemise. Mais où est mon chapeau? Après l'avoir bien cherché, je découvre qu'un homme qui est venu me voir ce matin s'est assis dessus et y est resté environ 5 quarts d'heure. Je n'ai plus de chapeau. C'est dimanche aujourd'hui, les boutiques sont fermées. Je ne puis avoir de chapeau que demain. Je n'ai que ma casquette de voyage. Mais on ne peut pas sortir en casquette. Il vaudrait mieux avoir commis les crimes les plus affreux que d'être rencontré avec une casquette. Si je sortais en casquette, je ne serais plus un monsieur, je serais un homme. Il suffit d'entendre une fois une petite bourgeoise à laquelle on dit qu'il est venu quelqu'un demander si c'est un homme ou un monsieur, pour ne s'exposer jamais à faire dire de soi qu'on est un homme. Bon, ben, je ne sortirai pas. Je me mettrai en route demain. Les boutiques. Quand on a affaire aux hommes, il faut se défier de la logique et du sens commun. Ces deux guides ne sont bons qu'à vous égarer. En effet, allez demander à un philosophe retiré dans quelque asile solitaire ce qui se doit vendre le plus et le mieux dans une ville comme Paris et ce qui doit se vendre le meilleur marché. Le philosophe, préjugeant d'après la logique et le bon sens, vous répondra sans hésiter, ben le pain, la viande, le vin, en un mot, les choses indispensables. Eh bien, le philosophe aura dit une lourde sottise. En effet, grâce à la vanité des peuples et à l'intelligence des gouvernements, il est arrivé que les choses de première nécessité sont frappés d'impôts, de protections, d'une telle façon qu'une fraction de la ville prend le parti de s'en passer tout à fait, et qu'un nombre beaucoup plus grand n'en consomme qu'une partie de ce qui lui serait nécessaire. Mais en retour, toutes les futilités inutiles, toutes les choses superflues sont à très bon marché, et il s'en vend autant qu'on en peut faire, de sorte que le luxe étant à si bon marché, et le besoin si haut prix, et d'ailleurs la vanité se paye en moi de prétexte et de semblant que l'estomac, le superflu est devenu tout doucement le nécessaire, et le nécessaire est traité comme s'il était superflu. On s'en occupe après, plus tard, quand on a le temps, s'il reste de l'argent. D'abord on s'habille, on se pare, on se déguise en riche. Ensuite, on mange, on boit, on se chauffe avec le reste, quand il reste quelque chose. Ces réflexions me sont suggérées par l'aspect des boutiques que je vois dans la rue. Du premier coup d'œil, je vois un boulanger, deux marchands de nouveautés, deux marchands de vin, trois épiciers. Le boulanger est auprès d'un des magasins de nouveautés. Le boulanger a sur sa porte une pancarte où on lit: Vu l'augmentation du prix de la farine, le prix du pain sera porté cette quinzaine à tant la livre. Voilà 4 quinzaines qu'on change cette pancarte et que chaque fois elle signale une augmentation. Et chez le marchand de bonnets, de fichus, etc., tout est rempli de pancartes contraires. Partout, vous voyez écrit en grosses lettres, avec les points d'exclamation, immense rabais, 75% au-dessous du cours, bon marché extraordinaire, châle de cachemire à 35 francs, manchon d'hermine à 7 francs, manteau de velours pour rien, mantille de dentelle pour moins que rien. Si bien que, si cet état de choses dure encore quelque temps, on sera obligé, vu le bon marché croissant des choses inutiles et la cherté sans cesse augmentant des choses nécessaires à la vie, de faire ce que, selon Talma des Réaux, faisait Madame de Pussieux, laquelle mangeait avec ravissement de la dentelle hachée menue comme chair à pâté, assaisonnée de diverses sauces et condiments, comme tout autre mets. Certes, voilà quelque chose que le philosophe qui vit loin du monde ne devinera qu'en cherchant quelle est la plus grande folie à laquelle puisse se livrer un peuple entier. Chacun en France, et surtout à Paris, veut paraître plus qu'il n'est. Mais cette passion, coûte chez elle, a besoin, pour se satisfaire, que chacun dépense un peu plus qu'il n'a. Cela ruine en totalité tout le monde et n'arrive pas au résultat si ardemment cherché. En effet, si celui qui a 1 200 francs de revenus fait semblant d'en avoir 3 000 et pour cela rogne sur les besoins pour ajouter au luxe extérieur, celui qui a les 3 000 francs, objet de son envie, veut à son tour faire croire qu'il en a 6. But donc celui qui les a réellement s'éloigne avec autant d'ardeur que s'en rapproche celui qui ne les a pas. De sorte que les distances sont toujours les mêmes, et que pour prix de tant de privations et de mensonges laborieux, tout le monde se trouve au même point relatif qu'auparavant, et que le seul résultat de cette triste comédie est une parfaite égalité de misère et de pauvreté, même pour les gens que la fortune avait voulu en affranchir. Supposez en effet qu'un caporal passe sergent, et si chaque sergent passe sergent-major, chaque sergent-major sous-lieutenant, etc., et si en même temps chaque soldat se fait caporal, personne n'aura changé de situation. Certes, il est bon et utile que les étoffes chaudes, mais grossières, soient à assez bon marché pour que même les gens les plus pauvres en puissent acheter. Mais il n'y aurait aucun inconvénient à ce que l'hermine, le cachemire et la dentelle se payent 10 fois plus cher qu'aujourd'hui, 20 fois plus cher, 100 fois plus cher. Les femmes qui l'en pourraient acheter en seraient quittes pour être belles de leur taille, de leur grâce, de leurs cheveux, de leurs yeux, de leurs dents, de leur modestie, pour être belles de leur beauté. D'ailleurs, si c'était très cher, on se résignerait sans chagrin à s'en passer. C'est une terrible chose que d'abaisser ainsi, comme on fait, la branche à laquelle est attaché le fruit défendu. Aucune femme jusqu'ici n'a exigé, je pense, une étoile pour mettre dans ses cheveux. Mais descendez les étoiles jusqu'aux cimes de peupliers, et aucune ne pourra s'en passer. Où serait le mal de reporter sur ces futilités les impôts qui pèsent si lourdement sur les objets de première nécessité, sur les choses indispensables à la vie? Sous prétexte de protéger certaines industries, on protège en France certains industriels, et cette protection coûte beaucoup trop cher au pays. Heureusement même que cela coûte si cher, que le pays ne pourra plus payer et que cette absurdité mourra de pléthore ou de faim. D'autre part, pour donner à des prix si singulièrement abaissés les objets de luxe, il faut que le prix de fabrication en soit extrêmement peu payé aux ouvriers. De De telle sorte qu'en même temps que l'ouvrier paye le pain plus cher, on lui diminue son salaire et que ses besoins augmentent en même temps que ses ressources diminuent. La ville de Paris vient de donner un bon et bel exemple. Elle vient, au moyen d'une somme imposante, d'assurer aux ouvriers et aux pauvres, pour toute la durée de l'hiver, le pain à un prix modéré. Bien, si j'étais roi de France, je demanderais aux chambres une loi ainsi conçue. En aucun cas, le pain ne pourra jamais coûter plus de 4 sous la livre dans toute la France. Le budget s'arrangerait pour combler la différence dans les mauvaises années. Dans ces années-là aussi, le roi s'inscrirait le premier sur une liste de souscription pour subvenir aux frais de cet acte de vraie philanthropie. Une autre impression que donne l'aspect de ces boutiques de chiffons, c'est de voir de grands jeunes gens pleins de santé et de vigueur, occupés à plier, à déplier, à replier des châles et à vendre des rubans. Ce métier devrait être réservé aux femmes, qui n'ont presque aucun moyen de gagner leur vie. Ce n'est pas beaucoup de compter que 3 000 hommes sont occupés dans Paris à ce métier usurpé et remplissent les fonctions des filles de boutique. Si l'on rendait ces grands gaillards à l'agriculture ou à l'armée, cela ferait 3 000 filles ou veuves arrachées à la prostitution, au suicide. Il me semble que cela vaudrait la peine qu'on s'en occupât. Il est du reste une chose remarquable, c'est qu'en même temps que l'éducation et les habitudes des hommes tendent à les efféminer, celles des femmes cherchent à leur donner l'aspect mâle et viril. Nous sommes sur le point de voir éclater une grande révolution. Les femmes ont joué pendant 5 000 ans le rôle de sexe faible et timide. Les hommes ont fini par s'apercevoir de l'abus. Ils ont enfin remarqué que les femmes exagéraient leur timidité, comme eux, ils exagèrent leur courage. En effet, les femmes ont à la fois plus de force physique et plus de courage que les hommes. Il n'y a pas un portefaix qui ferait ce que fait une jeune femme frêle pendant un hiver, si le portefaix passait toutes les nuits au bal, décolleté jusqu'au-dessous des épaules, s'il traversait en sueur des vestibules presque glacés pour aller jusqu'à sa voiture. Le portefaix mourrait d'épuisement ou d'une pleurésie avant la fin de l'hiver. Voilà pour la force. Et pour ce qui est du courage, l'homme n'aime que les gens qu'il craint et qui lui font un peu de mal. La femme ne craint que celui qu'elle aime, et elle brave le reste du monde avec une audace qui fait souvent frémir l'objet de tant de dévouement. Donc les hommes ont remarqué que, sous ce prétexte, les femmes qui font semblant d'être faibles et timides leur abandonner toutes les corvées humaines et tous les dangers de la vie, et eux, qui font semblant d'être braves et forts, qu'ils avaient la guerre et qui pisaient la garde nationale, le souci des affaires, le travail et toutes les responsabilités, que les femmes vivaient dans une douce ignorance et une charmante paresse, qu'elles n'avaient rien à faire qu'à être jolies, que tout ce qu'il y avait de beau au monde était consacré à les embellir, qu'elle dirigeait tout, faisait tout faire et ne laissait aux hommes qui croyaient commander que la responsabilité de leurs caprices à elle. Alors les hommes se sont enfin décidés à ne plus être dupes plus longtemps. Ils veulent devenir à leur tour le sexe faible et timide, et jouir de tous les avantages attachés à ce sexe et trop longtemps usurpé par les femmes. Ils ont mis dans la tête de certaines femmes certaines idées d'indépendance qu'elles ont eu la folie d'accepter et de faire accepter aux autres. Les femmes, souveraines absolues de tout, ont voulu secouer le joug. Hélas, il y avait au monde d'autres jougs que celui qu'elles avaient imposé aux hommes, et c'est celui-là qu'elles s'occupent de briser. Et les hommes commencent à en profiter. Les voici déjà qui ont de longs cheveux qui se frise et en se pommade et se parfume. Ils portent des mouchoirs brodés et des bouquets à leur boutonnière. Autrefois, ils portaient l'épée. Alors ils l'ont d'abord remplacée par la canne. Et ils remplacent aujourd'hui la canne par une baguette fragile, dorée, ciselée, ornée de pierreries. Ils se parent de bagues, d'épingles précieuses et de tout ce que autrefois ils donnaient aux femmes. Ils sont jaloux d'un camé ou d'un diamant qui brille au cou d'une belle femme, et ils enchérissent chez le joaillier le prix qu'elle en donne, puis ils le mettent avec joie et orgueil à leur cravate. Ils n'osent pas encore porter des colliers ni des boucles d'oreilles, mais, comme on dit, Paris n'a pas été bâti dans un jour. Ils ont fait de nouvelles lois pour défendre le duel. Ils ont décidé que désormais le bon citoyen, l'homme soumis aux lois de son pays, si on lui prend sa femme ou si on lui en donne un soufflet, n'a plus pour cela à exposer follement sa vie. Il ira se plaindre au magistrat qui condamnera le coupable à 1 ou 2 mois de prison. Les tyrans révoltés contre les opprimés ont imaginé adroitement de se peindre les moustaches avec de la pommade noire. Et les femmes, voyant qu'il leur salissait la main en la baisant, se sont refusées à cet hommage de vasselage et ont pris le parti de donner des poignées de main aux hommes. Comme jadis, ils s'en donnaient entre eux. Les hommes ont borné leur éducation à faire semblant d'apprendre pendant quelques années les 2 seules langues qui ne se parlent pas. Au sortir de leurs études, ils ne savent que parler et ils se sont emparés du droit à la loquacité qu'ont trop longtemps gardé les femmes. Leur politique consiste à parler, leur bienfaisance à parler, leur science à parler. Toutes les institutions modernes n'ont pour but que de parler et pour résultat que d'avoir parlé. Et pendant ce temps, les femmes qui sont tombées dans le piège qu'on leur tendait ont réclamé l'égalité, sans regarder de combien il leur fallait descendre pour y arriver. Elles font des études sérieuses. Il n'y a pas aujourd'hui un homme de 40 ans qui ne pourrait embarrasser une jeune fille de 17 ans. Elles savent la géographie, l'histoire, les mathématiques, le droit. Les hommes ont renoncé à nager à cause de leurs cheveux frisés. Et les femmes, aujourd'hui, nagent fort bien, montent à cheval, tirent l'épée et le pistolet, et elles font elles-mêmes les vers qu'on faisait autrefois pour elles. Quelques-unes ont, dit-on, essayé de fumer. Oh, je ne l'ai pas vu, mais ce n'était pas, selon le but des hommes, qui se réservent le tabac et la parole, et ne se réservent que cela. Les hommes fument comme autrefois les femmes parfilaient ou faisaient des nœuds. On abandonnera tout doucement aux femmes la bureaucratie, la guerre, la marine, la garde nationale, les sciences, le pouvoir, etc. Et alors, devenu enfin le sexe faible et timide, et peut-être même le beau sexe, nous les donnerons-nous à notre tour et nous jouirons d'une puissance qu'elles ont trop longtemps exercé. Je sais bien que quelques hommes, qui ne comprennent pas bien les choses, croient voir une tendance qu'ont aujourd'hui les femmes à s'emparer de toutes les corvées, dont la réunion forme ce que nous avons longtemps appelé notre dignité. Je sais qu'ils essayent de résister à l'invasion, qu'ils portent de grandes barbes et prennent des airs extrêmement terribles, mais cela ne trompe personne. Et les femmes savent parfaitement à quoi s'en tenir. Si, avant l'invention du tabac, on était venu dire à quelqu'un « J'ai une idée, je vais prendre un brevet pour qu'on ne me le vole pas. Voici une plante vénéneuse qui exhale une mauvaise odeur, ben, je vais la mettre en poudre et je proposerai aux gens de se fourrer cette poudre dans le nez. En 2 ou 3 ans, cela leur ôtera l'odorat. Je vais la couper en menus bruns et je proposerai aux gens d'en aspirer la fumée. D'abord, cela leur donnera des éblouissements, des vertiges, des tranchées. Mais ils finiront par s'y habituer. Tout ce que je demande, c'est le privilège de vendre seul. Et j'offre pour ce privilège de payer chaque année 80 millions à l'État. On aurait pris l'homme pour un fou, et son idée pour la plus grande extravagance possible. Pourquoi, lui aurait-on dit, n'ouvrez-vous pas boutique pour y vendre des coups de bâton? Vous auriez certainement pour le moins autant de débit. Eh bien, le tabac rapporte à l'État plus de 80 millions. Il faut dire que deux choses ont contribué à la prodigieuse consommation qui s'en fait aujourd'hui. La politique et la littérature. La littérature qui est allée demander ses inspirations en Orient, où on fume toujours, et en Allemagne, où on fume davantage encore. Et la politique qui, après les événements de 1830, a créé une garde nationale ardente, belliqueuse, qui a voulu manger du pain de munitions et fumer comme les vieux grognards. 80 millions. Mais c'est un gros revenu. Mais c'est un revenu comme je voudrais voir tous les autres revenus de l'État. Je voudrais qu'on reportât sur des choses semblables les impôts qui font payer si cher au peuple le pain, la viande, le sel, etc. Voici ce que rapportent en un an à l'Angleterre des objets non indispensables justement imposés. Domestique mâle portant livrée, 5 880 583 francs 75 centimes. Garde-chasse, 7 658. Carrosse à 4 roues, 4 172 056. Chevaux de carrosse, 7 274 014 130. Chevaux de course, 97 912 58. Poudre à poudrer, 156 538 95. Armoiries sur les voitures, 1 640 700. Impôt sur les chiens de luxe, 4 088 847 000, etc., etc., etc. Les bureaux de tabac sont réservés en principe aux anciens serviteurs de l'État, aux veuves de mariés ou de soldats. En réalité, les députés que l'on en demande énormément en promettent beaucoup et en enlèvent un assez grand nombre. Ceux-ci sont pour sûr donnés à des gens qui n'en ont pas besoin, car les députés n'ont à promettre qu'à les électeurs, et tout électeur paye 200 francs de contribution. Les titulaires des bureaux les vendent souvent, ce qui est défendu, et les louent presque toujours, ce qui est toléré. Les bureaux de tabac sont autant que possible dans de beaux quartiers, tenus par de jolies filles, qui n'y reste pas longtemps. Grâce à elle, les fumeurs les plus déterminés peuvent dire, comme Pyrrhus, je suis brûlé de plus de feu que je n'en allumais. C'est séduisant de marchands ont toutes sortes de moyens d'augmenter la consommation. Tout leur art et toute leur finesse sont dirigés contre les fumeurs de cigares à 4 sous. D'abord, elles ont soin de ne laisser sur le comptoir qu'une boîte de cigares froissée, humide, etc. Un consommateur remue les cigares pour en trouver un bon. La maîtresse de la maison prend sous le comptoir une autre boîte de cigares ordinaires, mais qui, en comparaison des autres, paraissent choisies, tandis que ce sont les mauvais qui sont choisis. C'est déjà très flatteur pour le bourgeois auquel elle semble dire. Oh, pardon, oh, ces cigares-là sont pour le vulgaire, mais voici ce que je réserve pour les gens comme il faut. Et généralement, le bourgeois en prend deux ou trois, au lieu d'un seul qu'il avait l'intention d'acheter. Cependant, ceci ne fait que le mettre dans une classe privilégiée. Les marchands de tabac ont imaginé de lui rendre un hommage tout personnel. On a l'air de reconnaître le consommateur et l'on tire d'un tiroir un petit paquet rose renfermant 4 cigares. C'est 20 sous. Vous n'en vouliez qu'un, mais il faudrait être terriblement butor pour ne pas accepter avec reconnaissance ces 4 cigares qu'un joli visage a choisi pour vous. J'aurais dû dire une jolie main, ce serait plus correct, mais ce serait moins vrai. Il y a dans les bureaux de tabac suffisamment de jolis visages, mais les belles mains y sont rares, comme partout et même un peu plus que partout. N'est-ce pas touchant de voir qu'une personne si agréable a pensé à vous dans votre absence et qu'elle a choisi pour vous 4 cigares, 4 faveurs, qu'elle les a soigneusement mis dans du papier et dans du papier rose. Celles qui sont à droite attendent que l'objet d'une pareille préférence soit parti de la boutique pour l'offrir à un autre. Oh, ce ne sont pas les consommateurs seuls qui ont à se défier dans les bureaux de tabac. Les buralistes elles-mêmes sont victimes de vols nombreux. Telle dandine choisit si longtemps un cigare que pourra en glisser 2 ou 3 dans les poches de son paletot. D'autres, plus habiles, ne mettent rien dans leur poche. Ils prennent un cigare de 5 sous et un de 2 sous, et en faisant leur choix, ils ont soin de mêler 3 ou 4 cigares de 5 sous parmi les autres. Et un ami, entré derrière eux, prend ces 3 ou 4 cigares et les paye naturellement 2 sous. Finissons ceci par une histoire. Un député voulait obtenir un bureau de tabac pour la vieille servante. « J'ai, dit-il, un bon moyen. Je vais demander en même temps quelque chose d'énorme qu'il faudra me refuser, et pour adoucir le refus, on s'empressera de me donner le bureau de tabac. Je vais demander un bureau et la pairie. Le député a été attrapé. On l'a nommé pair de France. Les boutiques étaient des souricières dans lesquelles il faut faire entrer les passants. On comprend très bien qu'on tende les amorces les plus friandes pour la passion que chacune de ces boutiques retente à explorer. Le marchand de comestibles doit offrir aux yeux de plus beaux poissons que ses concurrents, ou des asperges de 24 heures en avance sur les autres, ou de ces énormes ananas que seul s'est fabriqué mon ami Pelvillain de Meudon. Le marchand de nouveautés doit allumer les désirs de la coquetterie par un étalage de tissus et de couleurs. On y joint, depuis quelques années, l'annonce du bon marché. Ainsi, comme je vous le disais l'autre jour, telle femme qui passait autrefois devant ses boutiques en détournant la tête, parce qu'il lui manquait 1 000 francs pour être élégante, s'y arrête aujourd'hui et ne peut s'en arracher, parce qu'il ne lui faudrait que 30 francs pour se déguiser en duchesse. Certes, elle n'a plus les 30 francs que les 1 000, mais elle pourrait les avoir, et que les pauvres âmes en péril autour de ces étalages séducteurs. En effet, le soir, quand les jeunes ouvrières sortent de l'ouvrage à la fin d'une journée, dont le travail aura peine à payer le pain et le logement, elles font cercle devant les boutiques des marchands de nouveautés. Là aussi, vous verrez des Lovelace au rabais, des serpents économiquement tentateurs, qui fuiraient les Ève arrêtées aux vitres d'un geôlier ou d'un lapidaire, mais qui se rapprochent de celles dont les désirs se concentrent sur des fruits défendus par 15 francs, et qui sont prêts à accueillir pour elles des manchons d'hermine ou des châles de cachemire, dont l'étiquette est si rassurante. Et vous entendez murmurer aux oreilles « Voici un joli châle, je serais bien heureux de vous l'offrir. » De cette façon, il arrive aux marchands de nouveautés ce qui nous arrive souvent à nous autres pêcheurs des côtes de Normandie. Nous jetons une ligne amorcée, un merlan mange notre amorce et se prend à l'hameçon, un congre survient qui gobe le merlan et se prend à son tour. Le châle amorce la jeune fille amorce l'acheteur, l'étalage des marchands de nouveautés est logique et son siège est bien tendu en vue des deux passions qu'il exploite. Mais à quoi sert au changeur d'étaler aux yeux tant de billets de banque de tous les pays, tant de louis, tant de napoléons, tant de ducats et de quadruples, tant d'or dans de grossières sébiles de bois? Contraste qui augmente encore l'air de la profusion, comme quand on dit de quelqu'un qu'il remue l'or à la pelle. Il semble que dans ces boutiques, on a trop d'or, qu'on n'en sait que faire, et qu'on n'en prend aucun soin, qu'on en met dans des écuelles. Les changeurs pensent-ils qu'on achète des billets de banque parce que la vignette est jolie et bien gravée? Suppose-t-il qu'un passant s'arrête et s'écrie « Oh, le charmant billet de banque rose de la Banque de Rouen, oh, je vais l'acheter bien vite. » Ou encore à l'aspect des louis « Oh, comme le roi Louis-Philippe est donc ressemblant sur cette pièce à gauche. Combien ce portrait de roi? » Ceux des autres changeurs n'ont pas autant de physionomie. Il me paraît évident que ce n'est pas pour cela qu'on entre chez les changeurs. D'ailleurs, tous leurs portraits du roi sont semblables, tous leurs billets et toutes leurs pièces sont pareilles. Vous n'avez aucune autre raison d'entrer chez un changeur que sa proximité quand vous avez besoin de changer des billets contre de l'argent ou de l'argent contre de l'or. Cet étalage ne peut donc avoir qu'un résultat. Ce n'est pas une amorce pour les chalands, mais c'en est une pour les voleurs. Bien pis, ce métal qu'on a appelé vil parce qu'il rend vil ce qu'il désire. Ce métal exerce une telle fascination qu'il change en voleur des gens qui n'étaient que pauvres. En effet, cette amorce a une puissance toute particulière. Chez un autre marchand, on ne peut voler qu'un châle. Chez celui-ci, un pain. Mais chez le changeur, en s'introduisant par une de ces vitres, votre main ouverte et en la retirant fermée, vous vous appropriez à la fois tout ce qu'il y a dans les autres boutiques. Vous faites vôtre toutes les choses qui se vendent, même celles qui n'ont pas de valeur quand elles sont achetées. Une poignée de cet or, et vous, qui étiez pauvre, méprisé, seul, vous êtes entouré, aimé, envié. Vous avez tout à vous et vous pouvez tout donner à ceux que vous aimez. Il n'y aurait aucun inconvénient à ce que l'autorité défendît aux changeurs ces exhibitions inutiles pour eux et dangereuses pour d'autres. Les pauvres sont déjà assez pauvres et le diable leur tend bien assez de pièges. Si l'on a peine à comprendre pourquoi les changeurs font un semblable étalage sans qu'il en puisse résumer pour eux un seul avantage, on comprendra plus facilement encore que d'autres marchands ornent leurs boutiques d'objets qui ne peuvent que dégoûter les passants précisément de ce que les dits marchands ont à leur vendre. Je veux parler des petites morgues illustrées dont on permet aux marchands bouchers de faire la hideuse exhibition. Sur des linceuls tachés de sang sont appendus des cadavres mutilés. Non pas seulement dans la boutique, mais aussi en dehors, de telle façon que si vous ne détournez pas à temps, vous teignez votre habit de ce sang qui tombe goutte à goutte. Ce n'était pas assez. On a embelli et enjolivé le spectacle. Quelque esprit élégant a pensé que c'était en soi-même quelque chose d'assez triste qu'un cadavre, et que cela avait besoin d'être orné et égayé de quelques agréments. Alors on a imaginé de peindre avec du sang des ornements, des sujets, des figures sur les cadavres dépouillés. Rien n'est plus varié que cette peinture au sang. Vous voyez des cœurs percés de flèches, des autels à l'amour et à l'amitié, l'empereur Napoléon, sa main derrière le dos et tenant sa lorgnette de l'autre main. Quelques artistes plus gais ont peint, toujours avec du sang et toujours sur des cadavres, les plus bouffonnes caricatures de Daumier. Robert Macaire et son ami Bertrand y figurent dans toutes les phases de leur aventureuse existence. Et on ajoutait à tout cela des festons de boyaux et des girandoles de graisse. De ceci ne peut résulter aucun avantage pour les bouchers eux-mêmes. Il est des gens, au contraire, auxquels une semblable exposition donne pour plusieurs jours l'horreur de la viande. Il n'y aurait donc pour personne aucun inconvénient à tenir ces cadavres éloignés des regards, de façon à ce qu'ils ne fussent vus que de ceux qui entreraient dans les boutiques. Pour ma part, je n'aime point avoir le sang si gai. L'homme est le plus féroce des animaux carnassiers. Le tigre, le chacal, le loup, l'hyène tuent et dévorent les autres animaux. Et l'homme lui-même, seulement à mesure qu'ils ont faim, ils ne pensent pas d'avance à bien nourrir et à bien organiser, engraisser leur future proie. Ils n'ont pas inventé de faire cuire certains animaux tout vivants pour les rendre meilleurs au goût, de clouer les pattes des canards et de les gaver de certaines nourritures pour leur donner une maladie qui grossit démesurément leur foie, en fait un mets délicieux, etc., etc. Les autres animaux carnassiers ne choisissent pas avec le même soin délicat telle ou telle partie de tel ou tel cadavre, la cuisse de celui-ci, l'aile de celui-là. N'est-il rien de féroce comme de voir une femme qui donne à dîner une femme jeune, belle, au regard doux et tendre, qui dit à ses convives: Oh, je vous envoie l'aile de ce poulet, il est très tendre. On l'a tué hier au soir. Mangez de ces côtelettes d'agneau, elles sont saignantes. J'aime beaucoup que l'on écarte par tous les moyens le souvenir que tout ce que nous mangeons a été vivant, la pensée que nous dévorons des cadavres. Quelques esprits délicats ont imaginé de changer le nom des animaux devenus aliments. Sur la table, le bœuf s'appelle bouilli, la poule volaille, d'autres animaux gibier. Mais cela n'a pas été compris. Il n'est pas de bel air de dire bouilli. Quelques esprits grossiers ont au contraire inventé de laisser à la perdrix sa tête emplumée, au lièvre ses pattes couvertes de poils. Depuis assez longtemps que le monde existe, c'est-à-dire depuis que quelques-uns pensent et ne tous parlent, on en est presque arrivé à se passer des premiers. On sait à présent des phrases toutes faites pour tous les cas possibles. Une phrase amène une réponse connue qu'aurait pu faire tout aussi bien celui qui fait la question si elle lui avait été faite. On ne fait pas assez attention que presque toutes les conversations ressemblent à celles qu'on apprend dans les grammaires anglaises et que nous trouvons ridicules. Exemple, si l'on vous dit comment vous portez-vous, vous répondez bien et vous. Si c'est vous qui dites comment vous portez-vous, on vous répond bien et vous. Cependant, les conversations des grammaires roulant sur des choses insignifiantes, n'étant qu'un échange de formules, il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on dise toujours la même chose. Tandis que la conversation du monde comporte des semblants de jugement et de pensée qu'il est fort singulier de trouver dans la mémoire. Sur presque tous les sujets, il y a un certain nombre de phrases toutes faites que l'on sait d'avance. Jamais on n'a mangé une gibelotte à la campagne sans qu'il se trouve quelqu'un qui fasse sa plaisanterie pour neuve de demander si ce n'est pas une gibelotte de chat. Il m'est quelquefois arrivé de chercher d'avance, d'après la physionomie des gens, qu'est-ce qui prononcerait la formule consacrée? Cela fait partie de l'assaisonnement et est plus nécessaire à la gibelotte que le lapin lui-même. Voici la plaisanterie faite, et faite par moi, elle est indispensable. Je me suis trouvé quelquefois embarrassé en ne voyant parmi les convives que des figures respectables, de vénérables cheveux blancs et des physionomies intelligentes. Eh bien, quelqu'un se dévouait. Une seule fois, comme la formule sacramentelle se faisait attendre, Comme la plaisanterie sur le chat n'arrivait pas, je fis comme il est d'usage au théâtre, quand un rôle ne peut être rempli à cause de l'absence ou de l'indisposition subite d'un acteur, quelqu'un lit le rôle. Je me résignai à faire la facétie du chat avec une assez grande tristesse. Tout le monde rit beaucoup et un magistrat me dit « Ah, monsieur, vous me l'avez volé, j'allais la dire. » Quand on vient à parler de magnétisme, on vous fait inévitablement la question que voici. Y croyez-vous, vous? Si vous êtes esprit fort, vous répondez « Oh, mais pour qui me prenez-vous ? » Mais si au contraire, vous avez pris dans le monde le rôle d'un poète rêveur et intime, vous affirmez que vous avez une confiance aveugle dans le magnétisme. Il ne manque à la question, comme aux deux réponses, qu'une seule chose, un détail, c'est que le questionneur et ceux qui lui répondent sachent de quoi il est question. Quand La Fontaine allait demander à tout le monde « Comment trouvez-vous Baruch ?» on lui répondait généralement « Qu'est-ce que Baruch ?» au lieu de dire « Je le trouve sublime » ou de « Je le trouve ennuyeux ». Croyez-vous au magnétisme? Qu'entendez-vous par le magnétisme? Est-ce un fluide invisible, mystérieux, qui fait que la première fois qu'on voit une personne, on se sent repoussé ou attiré par elle, qui fait que nous reconnaissons nos amis que nous n'avons jamais vus, comme le chien reconnaît les voleurs qu'il rencontre pour la première fois? Un homme qui a beaucoup aimé les femmes me disait un jour « Comme à son harem dispersé dans le monde. Il reconnaît chaque femme à quelque instinct impossible à expliquer, mais il les reconnaît aussi sûrement que le berger reconnaît dans 10 troupeaux confondus ses moutons marqués d'une raie rouge ou bleue. En entrant dans un salon, ajoutait cet homme, je vois du premier coup d'œil les femmes qui sont de mon harem dispersées et celles auprès desquelles je perdrai mon temps et mes soins. Avec les secondes, je suis simplement poli. Aux premières, oh, je dirais volontiers. Enfin, je te retrouve, et toi, me reconnais-tu? Un homme nous a déplu, sans cause, sans raison, sans prétexte. Son gilet nous blesse, ses cheveux nous offensent. Cependant, comme l'homme s'est appelé lui-même « animal raisonnable », on aurait peut-être dû dire « raisonneur ». On s'informe, on apprend que c'est un très brave homme que celui pour lequel on ressent une si grande antipathie. Il passe pour bon, simple, généreux. On veut lutter contre ce sentiment qu'on trouve injuste. On lui adresse quelques prévenances, on se lie avec lui. Eh bien, cet homme vous est plus tard funeste en quelque chose. Il n'est pas mauvais en général, mais il est mauvais pour vous. Il vous est contraire. Peut-être est-ce à cause d'une ressemblance. Vous avez les mêmes angles, il se heurte au lieu de s'emboîter. Appelez-vous magnétisme, cette foudre continue qui sort des yeux de cette femme dont le regard perce le vôtre et vous fait éprouver une douceur voluptueuse. Appelez-vous magnétisme, cette puissance que l'homme de cœur, qui n'avait peur que d'avoir peur, exerce le spadassin quand ils sont tous deux l'épée à la main? Appelez-vous magnétisme, ce double regard dont la rencontre est pour le vrai jaloux, pour le jaloux raisonnable, un adultère complet, après lequel il reste quelque chose à faire pour l'amour, mais non contre le mari? Si c'est cela, je pense que personne ne le peut nier. Mais entendez-vous par le magnétisme l'art de dire la bonne aventure d'une façon nouvelle, l'art de faire les cartes sans cartes? Pour cela, je pense qu'on peut croire aux somnambules, juste comme aux autres diseuses de bonne aventure et aux autres tireuses de cartes. Mais entendez-vous par le magnétisme l'art de lire dans votre pensée, par une communication mystérieuse de cerveau à cerveau, de mêler deux existences par le partage de la vie, de façon à ce que l'on éprouve ce qu'éprouve l'autre? C'est l'exagération, ou plutôt la régénération, et la continuité des choses qui nous apparaissent incomplètement et par intervalles. Appelez-vous magnétisme le don des langues et de toutes les sciences données par l'imposition des mains, par quelqu'un qui n'a que ce qu'il donne au moyen de quelques grimaces et contorsions bizarres. Cela devient plus difficile. Appelez-vous magnétisme voir sans les yeux, lire par le dos, vouloir par la volonté d'un autre et sentir par ses sensations, devenir au gré d'autrui insensible à la douleur physique la plus atroce. Il y a dans tout cela des choses qui sont fort proches de celles que nous croyons et d'autres qui en sont fort éloignées. Mais doit-on accepter les unes à cause des autres ou les rejeter toutes par la même raison? Doit-on refuser de croire une chose parce qu'elle est extraordinaire? Mais nous admettons par l'habitude cent choses plus extraordinaires que celles que nous aurions comme impossibles. La vraisemblance n'est pas beaucoup plus le faux que le vrai. La vie est plus incompréhensible que le magnétisme, qui est une modification de la vie. La pensée et le songe, ce ruminement confus de la pensée, mais qui les a expliqués? Donc, il faut croire. Malheureusement, le magnétisme comme science est difficile à étudier pour l'homme de foi. Il est placé entre la science légale des corps constitués, qui nie avec préméditation et dessein formé, et le charlatanisme, qui affirme et exploite pour de l'argent. Je sais que des faiseurs de tours, Philippe ou Robert Houdin, et surtout le vicomte de Castor, exécutent des choses aussi surprenantes que les plus surprenants effets du magnétisme. Certes, quand ces messieurs tirent de la poche de leur gilet un grand bocal plein d'eau et de poissons rouges, quand ils opèrent tous les phénomènes de la seconde vue, il est évident qu'ils ont une lucidité plus grande qu'aucun somnambule et qu'ils nous laissent aussi étonnés que nous n'avons jamais été par Alexis ou par Mademoiselle Pigère. Ainsi, à quoi servent les corps constitués, les académies? L'académie de médecine, si les magnétiseurs sont des charlatans et des jongleurs, ne doit-elle pas démasquer la fourberie d'une façon si complète que ces messieurs ne puissent plus donner de chance que sur les tréteaux des boulevards? Si les opérations sont vraies, c'est immense, c'est bouleversant, c'est dangereux. La science doit s'en emparer et les régler. Et si c'est faux, c'est une fourberie très adroite et très effrontée, dont sont dupes beaucoup de bons esprits. C'est une question qui ne peut rester en suspens, et les académies et les corps savants doivent être sommés de la rendre complètement claire. Pour moi, voici ce que j'ai vu successivement en diverses circonstances. Monsieur Esque, trois étoiles, un jeune poète, s'occupait de magnétisme. Il amena un jour chez Monsieur VH un sujet qui l'endormit facilement. La somnambule avait lu, disait-on, dans des séances précédentes, des phrases entières avec un bandeau sur les yeux. Comme on suspectait le bandeau, et qu'on aimait mieux croire à certaines exagérations de la vue qu'à la vue sans les yeux, on proposa, au lieu de cacher les yeux, de cacher le livre. On présenta à lire à la somnambule des mots écrits et cachés sous d'épaisses enveloppes. Elle préféra avoir une attaque de nerfs et donner des coups de pied dans l'estomac de son magnétiseur. J'ai vu ensuite Mademoiselle Pigère. La mère de Mademoiselle Pigère lui mettait sur les yeux un bandeau de velours noir. On en collait les bords sur ses joues avec du taffetas gommé. Après de longs efforts et quelques contorsions suspectes, Mademoiselle Pigère finit par déchiffrer deux ou trois mots. On me proposa de jouer aux cartes avec elle. En jouant, je retournai une carte, elle me dit: Monsieur, la carte est retournée. Le public d'applaudir. En quoi le public avait tort? Je lui dis, « Oh, mademoiselle, vous vous voyez à travers un bandeau épais, auquel l'épaisseur de la carte n'ajoutera pas une grande difficulté. Vous voyez, comme vous le prétendez, sans le secours des yeux, et alors il importe peu pour vous que la carte soit d'un côté ou de l'autre, sur la table ou dans ma poche. » Mademoiselle Pigère ne put nommer la carte. En général, elle n'hésitait pas pour dire ce qui se passait au loin, mais elle éprouvait beaucoup de peine pour désigner les choses présentes, à peu près comme la plupart des médecins qui sont si forts sur la peste et la lèpre qu'ils n'existent plus et qui échouent contre les cors aux pieds et les rhumes de cerveau. J'ai la conviction que Mademoiselle Pigère, qui dans l'origine avait dû présenter certains phénomènes électriques et magnétiques, se voyait l'objet d'une grande curiosité et les avait exagérés. Puis en avait faim d'autres et, je crois, qu'elle trompait un peu ses parents. J'ai vu au Havre le somnambule le plus lucide dont on ait parlé. C'est Alexis que magnétise M. Marcilly. Les assistants lui firent dire un peu trop de bonne aventure, mais il m'étonna beaucoup dans les réponses qu'il fit. Quelques-uns auraient pu être faites par n'importe qui, grâce à la complaisance involontaire avec laquelle certaines femmes impatientes l'aidaient sans s'en apercevoir. D'autres sont à peu près impossibles à expliquer. D'abord, il fit tout ce que Mademoiselle Pigère n'avait pu faire. Les yeux bandés, il reçut 5 cartes d'un assistant qui en prit 5. Alexis joua la partie d'écarté et les 2 jeux retournés sur la table, et désignant à son adversaire, qui ne voyait pas son jeu, la carte qu'il devait prendre pour répondre à celle qu'il jouait. « Monsieur, vous avez la dame de carreau, la 2e à gauche. Monsieur, avez-vous le 8 de trèfle ? Oui, la 1re à droite. Monsieur, vous n'avez pas de pique, alors coupez avec votre valet d'un tout. » Une femme lui dit, oh, « En sortant de chez moi, j'ai mis sur la table de mon salon un objet qui n'y est pas d'ordinaire. Le voyez-vous ? » Alexis répondit qu'il le voyait, et après de longues hésitations et des questions nombreuses, faites par lui-même, il répondit, « Ben oui, c'est un signe empaillé. » Mais il avait demandé si c'était un meuble, si c'était un animal, si cela était vivant. Bon, je crois que j'aurais deviné comme lui. On lui présenta une bague et il dit 2 mots qui se trouvèrent écrits dans la bague. Et comme on le laissait un peu seul, je m'approchai de lui et lui livrai ma main. Il toucha une bague que je porte et me dit, cette bague vous a été donnée par une personne qui est morte. Est-ce une femme ? Ajouta-t-il. Non. Alors, c'est votre père. Je sentis un froid à la racine des cheveux et je ne lui fis plus de questions. Comme je m'éloignais, il ajouta, s'il n'y avait pas de monde, j'aurais quelque chose à vous dire. Je ne l'ai pas revu. Un jour, j'assistai à une séance de magnétisme chez M. Lafontaine. Il amena une jeune servante et l'endormit. M. Lafontaine annonça qu'il ne s'agissait pas de montrer de la lucidité, mais de l'insensibilité. En un mot, de provoquer à volonté un état de catalepsie pendant lequel le sujet pourrait souffrir les opérations les plus douloureuses, non seulement sans s'en apercevoir, mais encore sans en garder ensuite le moindre souvenir. Il magnétisa les bras et les jambes de la jeune fille qu'il appelait Marie. Ses bras et ses jambes prirent une grande rigidité. J'essayai de faire fléchir les bras, mais il me sembla que je risquais de les casser. M. Lafontaine annonça alors que l'insensibilité était complète, quoique la somnambule parlât, et répondit à toutes les questions que lui faisait le magnétiseur ou les personnes que, disait-il, il mettait en rapport avec elle. Il lui ficha des aiguilles sur les mains, sur le front. Il lui traversa la main avec une aiguille. Mais je sais qu'en certaines parties de la main, on peut le faire à toute personne éveillée sans qu'elle en ressente de douleur. Il lui traversa le sourcil avec une autre aiguille, et comme le sang coulait avec une certaine abondance, il l'arrêta au moyen de passe et de l'imposition du doigt. Il m'offrait de ficher moi-même des épingles sur la patiente. Je n'ai pas besoin de dire pourquoi je préférais lui chatouiller les lèvres avec une plume. Elle resta impassible, sans la moindre contraction. Il lui fit respirer du soufre allumé, puis de l'ammoniac qu'il lui ordonna d'aspirer fortement. Elle obéit et aucun muscle de son visage ne trahit la moindre gêne ni la moindre sensation. Monsieur Lafontaine fit alors de nouvelles passes, ayant, dit-il, pour but d'augmenter encore l'état électrique de Marie. Quelqu'un joua un air d'église sur un piano. Elle parut surprise. Un sourire ineffable s'épanouit sur son visage. Elle joignit les mains et se leva. Ses genoux fléchirent. Son sein s'agita et graduellement, elle arriva à une extase extraordinaire. Elle murmurait les mots de « Seigneur » et de « Mon Dieu ». Monsieur Lafontaine lui parlait, elle ne l'entendait plus. Ses yeux fixes, pleins d'un feu humide, semblaient contempler le ciel ouvert. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Cette fille, d'un visage insignifiant, d'une forme commune, devint tout à fait belle. Ses attitudes étaient nobles, son regard inspiré. On lui mit une bougie, non pas devant, mais sur les yeux, au point de lui brûler les cils, sans qu'elle semblât s'en apercevoir, sans qu'elle manifestât la moindre sensation causée par la flamme ni par la chaleur, sans que sa paupière frissonnât. On lui tira aux oreilles et des capsules fulminantes. On lui ficha des épingles sur le front. Son extase allait toujours croissant. Elle tomba à genoux en s'écriant « Seigneur, viens !» Tout à coup, le musicien changea de rythme et joua un air de danse. Marie parut surprise, inquiète, contrariée. Elle semblait se cramponner aux sensations nouvelles et contraires qui s'emparaient, qui s'évanouissaient d'elle malgré sa volonté. Puis elle céda. Et au sourire extatique succéda un sourire de paysanne au bal. Elle redevint une fille commune, assez laide, et elle dansa. Puis le musicien se leva et quitta le piano. À l'instant même, elle s'affaissa et serait tombée par une terre si on s'était empressé de la retenir, mais on ne put l'empêcher de s'étendre sur le tapis. Et elle eut une crise nerveuse, fort semblable au commencement d'une crise d'épilepsie. Monsieur Lafontaine la calma avec quelque peine. Cependant, elle était toujours en état de somnambulisme. On lui demanda si elle souffrait, et au milieu des convulsions, elle répondit que non. La musique reprit, elle se calma à l'instant, et retomba dans l'état extatique qui nous avait frappés auparavant. Pendant ce temps, une vieille dame très fervente à l'endroit du fluide animal ou vital, comme l'appelle M. Lafontaine, me faisait une querelle. Elle prétendait que j'avais parlé à la somnambule, que je m'étais mis en rapport avec elle et que le combat de mon fluide avec celui de M. Lafontaine avait causé la crise nerveuse. J'excusais de mon mieux, et moi et mon pauvre fluide. Monsieur Lafontaine eut l'indulgence d'assigner une autre cause à la crise de Marie et de l'attribuer à la cessation brusque de la musique. Effet du reste, ajouta-t-il, très difficile à éviter. et mon fluide fut déclaré non coupable à ma grande satisfaction. Si tout ceci est une comédie, c'est bien joué. Et Marie laisse bien loin derrière elle tout ce qu'il y a d'actrices au théâtre. Marie, réveillée, eut l'air de n'avoir la conscience de rien de ce qui s'était passé. Et on mit sur la sellette, à sa place, un vieux sourd-muet qui, après des poisses et des insufflations prolongées, énergiques, entendit et répéta les mots « bonjour » et « pantalon ». Mais comme il y a beaucoup de sourds-muets qui entendent et parlent un peu à différents degrés, et comme il ne put expliquer clairement sa situation antérieure, le fait reste sans conclusion. Voilà ce que j'ai vu un jeudi à 8 heures du soir chez M. Lafontaine, rue Neuve des Mathurins. Maintenant que cela s'explique de différentes façons, que l'influence exercée par M. Lafontaine sur Marie consiste à reproduire à volonté chez elle une crise, effet d'une catalepsie naturelle à laquelle elle serait sujette, ou que ce soit la plus effrontée et la mieux jouée des comédies, ce qui ne paraîtra vraisemblable à aucune des personnes qui ont assisté, il y a certes de quoi frapper les esprits, même peu portés à la crédulité, et je le répète, le devoir de l'Académie de médecine, son devoir impérieux est de reconnaître et d'étudier ce phénomène ou de démontrer la supercherie de telle façon que personne n'en puisse être dupe à l'avenir. Pour moi, j'ai vu des choses extraordinaires et je les raconte. J'attends. Je terminerai ce récit par une histoire ayant trait au magnétisme et que je vole tout simplement à M. Émile Deschamps. Malheureusement, je n'ai pu retenir que le fond de l'anecdote, et je ne puis lui voler la bonhomie spirituelle et malicieuse avec laquelle il la raconte. Une jeune fille avait une mauvaise santé, sans être précisément malade. Son état ne présentait les symptômes d'aucune maladie classée, ayant, de par la faculté droit de bourgeoisie chez les mortels, et les médecins, allopathes, homéopathes, hydropathes, etc., prétendaient que cela se passerait. Ils ordonnaient un peu de patience et beaucoup de distraction. Un ami de la famille parla de magnétisme avec beaucoup d'enthousiasme. Il raconta des cures merveilleuses, des phénomènes, des miracles. Malgré certaines répugnances, on se laissa convaincre et l'on fit venir un magnétiseur. C'était à la fin du jour, dans un jardin, sous une espèce allée de sycomores, et au bout d'un quart d'heure, la jeune personne était endormie. Au bout de 20 minutes, elle commençait à répondre aux questions du magnétiseur, lorsqu'un domestique, accouru en toute hâte, demanda à celui-ci et lui dit quelques mots à l'oreille. « Oh, pardon, dit-il à la famille, un événement inattendu me force à courir chez moi. Oh, je reviens dans 10 minutes, hein. Attendez-moi, j'ai mon cabriolet à votre porte. » Il part, les 10 minutes sont bientôt passées, il s'écoule un quart d'heure, une demi-heure, une heure. L'ami, très expert dans la pratique du magnétisme, dit « Oh, c'est fâcheux qu'il ne l'ait pas réveillé avant de partir. » Au bout d'une heure et demie, on envoie chez le magnétiseur. On répond qu'il n'est resté que 10 minutes chez lui, qu'il était fort ému, qu'il a fait un paquet d'un peu de linge et de quelques hardes et qu'il s'est fait conduire au chemin de fer de Rouen. On couche la jeune fille, on convient de ne rien dire ni à personne ni à elle-même. Le lendemain matin, on n'avait pas de nouvelles. Le surlendemain, on reçoit une lettre du Havre. Le médecin annonçait que sa femme lui avait été enlevée par un perfide ami qu'ils avaient pris en partant sa caisse tout entière et qu'il était à leur poursuite. Il regrettait vivement l'embarras dans lequel il les avait laissés. Que faire? L'ami disait, au moins, s'il avait mis quelqu'un de nous en rapport avec elle, on l'aurait réveillée. Et que faisait la jeune fille? La jeune fille, elle buvait, mangeait, causait, comme de coutume. Il n'y avait rien de changé à ses habitudes. Et bien heureusement, car cela rendait facile aux parents de lui cacher la triste position dans laquelle elle se trouvait. Mais alors elle ne dormait pas. Certainement que si, puisque le magnétiseur ne l'avait pas réveillé. Oui, c'est juste. Il se passa un an. Les parents étaient fort tristes, fort abattus. On n'avait aucune nouvelle du disciple de Mesmer. Il n'était pas revenu à Paris, on ne savait où il était. Un parti se présente. Les parents et l'ami se réunirent, se consultèrent. Doit-on avertir le futur époux de l'état dans lequel se trouve la fille qu'il demande? La probité, la sévère probité, dit qu'on ne peut s'en dispenser. Mais s'il allait s'effrayer, et qu'il ne s'effraierait pas à sa place. C'est un mariage très avantageux, très convenable sous tous les rapports. On fait taire la probité, on ne dit rien. Le mariage se conclut. Et comment était la jeune femme? Comme de coutume, il fallait savoir ce qui en était, sans cela, on ne se serait douté de rien. Au bout d'un an, elle allait avoir un enfant. Le mari était enchanté. Cependant, les parents, qui étaient honnêtes au fond, souffraient d'un pareil état de choses. Leur conscience était bourrelée quand le mari les remerciait de son bonheur. 10 fois, la vérité fut sur leurs lèvres. 10 fois, ils la retirèrent. Et la jeune femme, oh, elle allait fort bien. Elle eut un second enfant. Et un jour, on apprend que le médecin s'est fixé à Provins. Les parents, au comble de la joie, lui écrivent avec instance de venir à Paris. Il répond et s'excuse sur de nombreuses occupations. Une correspondance s'engage. Les parents insistent. Le magnétiseur résiste. Il finit par mettre son déplacement à un prix exorbitant. Que faire? Il fallait bien en passer par où il voulait. On était à sa discrétion. L'état de la jeune femme ne pouvait durer éternellement. Le secret caché jusqu'alors au mari pouvait être révélé à chaque instant. On accorde ce que le médecin exigeait. Il arrive, il se loge auprès de la maison. Et un jour que le mari est à la chasse, on le prévient. Il arrive, on avait défendu la porte, on était sûr de ne pas être troublé. L'ami seul, qui était dans le secret, assistait à l'opération. Le magnétiseur dégage le fluide, il descend les mains du front à l'épigastre de la somnambule, en les secouant pour se débarrasser du fluide qu'il enlève. Et il la réveille. Et quelle différence cela amena-t-il chez la jeune femme? Et aucune, au point que le mari ne s'aperçut de rien. Mais alors, qui vous dit qu'elle ne dormait plus? Mais quelle tête dure vous avez! Mais certainement qu'elle ne dormait plus, puisque le magnétiseur l'avait réveillée. Ah oui, c'est juste. Fin.